Bien, bonsoir. Bienvenue donc à ce.
T'appuies, c'est bon, t'appuies sur le bouton.
Oui, non, c'est pas ça, mais c'est
peut-être. Ah oui, gens, le micro, mais oui, le micro. Ouais, c'est...
Avec micro,
oui, on va faire avec micro. Mais avec micro modéré, on va faire un peu loin comme ça. Ouais. Ouais. Donc, bienvenue à ce cycle donc de cours à l'Université Populaire qui porte donc autour de questions dont j'espère qu'elles vont vous rappeler des choses et vous interpeller autour des notions de publicité, de transparence, de secret, de discrétion. Je vais revenir un peu sur ces notions dans un instant. Je vais donner pour titre un peu... dissimulons, voilà. Alors j'ai mis des guillemets parce que vous savez peut-être que dissimulons c'est la réplique type du traître dans les mélodrames au 19e siècle. Si vous savez, il est sous cape, il a la tête à Manuel Valls un peu comme ça, et puis il a un petit couteau comme ça, et puis une cape qui fait dissimulons. Vous verrez plus jamais Manuel Valls de la même manière. Si toutefois vous le revoyez un jour. Parce qu'on ne peut pas complètement se lever. Enfin, donc voilà, il y a une dimension un peu, voilà, à la fois c'est une injonction et en même temps, d'habitude, celui qui dit ça, il a un peu des choses à se reprocher. Alors, je vais d'abord un peu présenter l'ensemble du cycle et puis un peu les raisons pour lesquelles j'ai choisi un peu de voir ces questions-là avec vous. Et puis après, je rentrerai un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, je vais plutôt parler de questions qui tournent autour de la publicité. Alors, publicité non pas au sens de la pub, mais au sens du caractère de ce qui est public, au sens où on donne de la publicité à quelque chose, où on rend public quelque chose. Bon. On verra que c'est une notion qui a une importance toute particulière, notamment à l'époque des Lumières et avec une réactualisation au XXe siècle. Alors, je suis parti pour travailler sur ces questions. Déjà, il y a eu un travail collectif derrière dans lequel j'ai été impliqué, qui est ce numéro de la revue Réfraction, qui s'intitule Discret, secret, clandestin, où collectivement, avec un certain nombre d'amis, on a un peu réfléchi sur ces questions. Vous voyez qui touche, disons, autour du statut aujourd'hui de ce qui est caché, avec la dimension un peu bifide de ce qui est caché. À la fois, c'est ce qu'on aimerait bien ne pas forcément dévoiler, tout ce qui touche par exemple à la vie privée, mais peut-être pas seulement. Et puis, évidemment, il y a la dimension du secret de l'autre côté, qui est le secret qu'on aimerait au contraire dévoiler, le secret inavouable, éventuellement secret d'État. Alors, précisément, moi, il m'a semblé que l'époque, en tout cas, qui nous précédait, on va dire, bon, l'époque qui précède, mettons, l'irruption des réseaux sociaux, etc. Bon, mais on va voir que à travers les réseaux sociaux, il y a peut-être autre chose qui se joue. L'époque dont nous sortons finalement, dont nous sommes sortis, était une époque où le secret et la discrétion étaient considérés comme des choses, disons, condamnables lorsqu'ils concernaient la sphère de l'action publique. On parle par exemple de secrets d'État, précisément, et bien les secrets d'État, c'est ce qu'on aimerait parfois qu'ils soient dévoilés, enfin, sauf quand on est peut-être homme d'État et qu'on a des choses à se reprocher. Bon. La notion de discrétion, elle est aussi à double tranchant. On va parler de pouvoir être discret, ce qui est une qualité parfois, mais on va également parler par exemple de mesures ou de pouvoir discrétionnaire. Voilà. Ou encore une notion comme celle de clandestinité, par exemple, c'est une notion qui a là aussi deux versants, peut-être d'une autre manière. Vous voyez, la notion de clandestinité, c'est ou bien on choisit par exemple la clandestinité dans des époques éventuellement un peu troubles, ou dans des époques de forte répression, type la résistance, etc. On entre dans la clandestinité. Et puis parfois, il y a aussi évidemment les clandestins qui eux sont bien souvent de prétendus clandestins, mais qui en tout cas sont invisibilisés en raison, par exemple, d'une législation qui leur interdit de paraître au grand jour. Donc ces notions sont un peu bifides, mais disons, je suis parti, moi, du constat qu'on sortait d'une période où eh bien, tout ce qui tournait autour du secret et de la discrétion était considéré comme un peu déplorable, du moment que ça concernait la sphère de l'action publique. Et en revanche, que eh bien, le secret et la discrétion étaient considérés comme des choses souhaitables lorsqu'ils portaient, au contraire, sur la vie privée. Hein, on dit, par exemple, avoir son jardin secret. Hein, voilà. Et puis, bon, il y a un certain nombre d'expressions qui sont communes en français. Hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, bon, ce genre de choses. Alors, c'est précisément ce partage des choses qui me semble aujourd'hui remis en question. J'ai même fait l'hypothèse que peut-être les choses étaient complètement renversées aujourd'hui. D'un côté, en effet, la pratique du secret par les individus, elle est peut-être de plus en plus mal vue. Pour reprendre encore là une expression courante, hein, lorsque l'on dit, non pas hein, alors, pour vivre heureux, vivons cachés ou avoir son jardin secret, mais lorsqu'on dit par exemple, je n'ai rien à cacher. Hein, je n'ai rien à cacher, ça signifie quoi? Ça signifie, alors mais moi j'ai rien à me reprocher. Hein. Alors c'est par exemple les choses que disent les gens lorsqu'on leur dit tu devrais crypter tes mails, tu devrais faire attention à ta correspondance, protéger la confidentialité de ton réseau internet. Je dis, oui, mais moi, vous savez, j'ai rien à cacher. Quoi. Bon, voilà. Hein, comme s'il fallait forcément, comme si le fait de donner un droit de regard un peu à n'importe qui et surtout à ceux qu'on souhaiterait pas voir regarder ce qu'on fait, était un signe de culpabilité. Voilà, donc en somme, il y a quelque chose de l'ordre de la suspicion à cacher quelque chose aujourd'hui. Voilà. La dimension du secret. Donc, pour ce qui concerne les personnes privées, on peut avoir parfois l'impression qu'elle s'est renversée. Parfois, hein, lorsque vous avez des procédures pénales sur un certain nombre d'individus, eh bien le fait qu'ils aient crypté leur messagerie, qu'ils aient communiqué d'une manière discrète, etc., est vu comme un élément éminemment suspect. D'un autre côté, il semblerait aujourd'hui que la dénonciation des secrets d'État, elle est beaucoup moins bonne presse. Et alors. De deux manières, ou bien parce que celui qui s'y adonne en disant « Ah, on nous cache tout, on nous dit rien un peu », eh bien, va être regardé comme éventuellement comme une sorte de complotiste, hein, voilà. Ou bien, tout simplement, parce que celui qui s'aventure à divulguer des secrets d'État, eh bien, encourt un certain nombre de risques, notamment pénaux. J'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais il y a qu'à voir ce qui est arrivé, voilà, à ceux qui se sont engagés dans les histoires de Wikileaks, etc. Donc en somme, on pourrait dire, voilà, on a l'impression d'un retournement des choses où, à une période où le secret public, le secret des choses qui auraient dû être publiques, était condamné et le secret de ce qui était privé était au contraire prisé, eh bien on a l'impression d'avoir un retournement, hein, pas touche au secret d'État, on va pas aller fourrer notre nez là-dedans, ça ne nous regarde pas. Bah si, bon quand même. Et puis inversement, où on a affaire à une espèce de surexposition de choses qui auraient peut-être dû rester privées. Alors, entendons-nous bien, ce qui fait davantage encore la particularité peut-être de notre époque de ce point de vue-là, c'est qu'on pourrait dire oui, le côté il y a du secret, il y a du secret pour l'État, il n'y a plus de secret pour nous. On a déjà vécu ça, par exemple. Hein, typiquement à des époques qu'on qualifie parfois de totalitaires. Ici, évidemment, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, au sens où, bien évidemment, ça n'est pas l'État qui directement vient fourrer son nez dans vos affaires, qui restreint la liberté individuelle. Une bonne partie de ce qui est divulgué à propos des personnes privées est souvent divulgué par ces personnes elles-mêmes. Hein, à travers les traces qu'elles laissent sur Internet, hein, l'autodénonciation, voilà. Qui passe par là. Donc, à partir de là, moi, l'objectif que je poursuis à travers les trois séances que je vais vous proposer, c'est d'abord peut-être de débaucher quelque chose comme un diagnostic sur ces notions et sur le rapport que nous entretenons aujourd'hui à des notions comme celles de secret, de discrétion, voire de clandestinité peut-être, mais aussi de publicité et de transparence, et le rapport que nous avons aux pratiques que recouvrent ces différentes notions. Le deuxième objectif que je me suis donné, c'est de se demander qu'est-ce qui fait que notre rapport à ces pratiques a pu changer? C'est quoi les facteurs qui font que notre rapport à ces pratiques, notamment de discrétion et de secret, a pu changer? Et puis, troisième objectif, c'est quand même, je propose ce questionnement dans un cadre philosophique, c'est de se demander quels outils la philosophie met à notre disposition pour penser les significations, les dimensions, les enjeux, notamment politiques, de ces notions de secret, de discrétion, etc. Alors, donc les deux premières séances, donc celle-ci et celle de la semaine prochaine, donc vont être consacrées à examiner l'hypothèse que j'ai déjà un peu brièvement évoquée, à savoir que nous serions passés donc d'un principe, alors que je vais appeler libéral, on va voir pour quelle raison, qui exigeait la publicité, en particulier la publicité pour tout ce qui concernait les affaires politiques, donc publicité par exemple de la loi, c'est un grand principe de justice que nul n'est censé ignorer la loi, la publicité des débats, le débat démocratique ou le débat doit avoir lieu publiquement, mais aussi qui exigeait la publicité, alors on va le voir en un sens bien particulier, des raisons qui gouvernent l'action politique, ou des maximes, comme on dit parfois en employant un vocabulaire kantien, des maximes qui gouvernent l'action politique. Donc, nous serions passés donc d'un principe de ce type, d'un principe libéral de publicité, à un impératif ou à une injonction quasiment morale qui requiert de la part de chacun la transparence. Alors, ça, je l'examinerai plus particulièrement la fois prochaine, par le biais d'un certain nombre d'outils, notamment technologiques, mais pas seulement, il y a une forme d'injonction à la transparence, une injonction à la mise en scène de soi, une injonction à se raconter, à se dire, etc., elle n'est plus exactement tout à fait libérale, mais peut-être plus libertarienne, voire avec. On pourrait même aller jusqu'à soutenir qu'elle a quelque chose comme des accointances avec l'anarcho-capitalisme. On verra ça la fois prochaine. Donc, pour aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est revenir à la signification qu'a eu, disons, en gros, dans une période qui va des Lumières à la fin du XXe siècle, la publicité, la notion de publicité, en montrant que cette notion, elle valait avant tout, cette notion de publicité soit reprise au sens de la pub, elle valait avant tout pour la sphère publique, pour la sphère politique, et en montrant que l'éloge de la publicité dans cette période, chez un certain nombre d'auteurs qui sont plutôt des penseurs de l'état de droit, ou des penseurs de la réforme démocratique, ou de la, une réforme libérale, elle est solidaire d'un projet précisément réformiste, et qu'elle contient l'impératif de transparence seulement à titre de possibilité. C'est-à-dire que, on va voir que, en un sens, les injonctions contemporaines à la transparence, elles se sont en quelque sorte greffées dessus, mais ça implique un certain nombre de décisions théoriques et politiques. Et donc c'est la deuxième séance, elle, qui s'intéressera pour elle-même à cette notion de transparence comme étant l'objet d'une injonction morale, à destination non plus donc des affaires publiques, au sens où par exemple à la fin de l'époque soviétique, c'était l'un des mots d'ordre, la transparence, glasnost, l'idée d'une transparence des affaires publiques, mais qui s'adresse cette fois aux affaires, aux personnes privées, notamment à travers les usages des prétendus réseaux sociaux, disons des médias sociaux. Alors, la dernière séance, elle, je la consacrerai à revaloriser un certain nombre de pratiques qui relèvent, au contraire, du secret, de la clandestinité, peut-être, en tout cas de la discrétion. Et je le ferai à travers un biais très particulier, qui est l'usage qu'ont fait un certain nombre de penseurs révolutionnaires au XIXe siècle d'une forme politique qui peut sembler tout à fait désuète, qui est la forme de la société secrète. Alors, c'est souvent quelque chose qui est très mauvaise presse, mais il me semble que c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce que c'est la mauvaise presse? Quels critères on a pour critiquer ce type de pratique? Je ne sais pas, des auteurs comme Blanqui ou comme Bakounine ou comme Buonarroti ou comme donc les babouvistes ou bien comme Mazzini ou la charbonnerie. Vous avez plein de pratiques comme ça de société secrète dans des contextes souvent de répression politique. Les gens pratiquent le secret avec ce que ça peut avoir de ludique, hein, il y a un côté, voilà, avoir un langage codé, etc., vivre selon d'autres règles et tout ça. Mais évidemment, il y a aussi derrière une dimension pratique qui est d'échapper à la répression. Alors, on verra à quelles conditions, disons, il est possible peut-être de critiquer ces pratiques, mais aussi peut-être d'en revaloriser certaines. Donc, pour l'instant. Pour aujourd'hui, ce que j'aimerais essayer de comprendre un peu avec vous, c'est pourquoi dans nos sociétés, le secret est le plus souvent associé à l'inavouable. Hein, je n'ai rien à cacher égale je n'ai rien à me reprocher. Et inversement, pourquoi la publicité, hein, au sens donc du caractère de ce qui est public, hein, caractère que possède ce qui a été rendu public, est associée le plus souvent à quelque chose de positif. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une sorte de généalogie de ce que j'appelle donc un principe de publicité, avant la prochaine fois de voir quelque sorte son explosion hein, à travers la notion de transparence. Alors il y a un auteur extrêmement important pour essayer de comprendre cet éloge de la publicité, notamment à partir des Lumières. C'est un auteur que vous connaissez sans doute, hein, qui s'appelle Emmanuel Kant, donc qui est un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, et qui, dans un contexte bien particulier, a proposé effectivement quelque chose comme un éloge de la publicité. Alors, c'est pas très étonnant, hein, Kant, c'est un penseur qui réfléchit sur la notion de lumière, hein, précisément, mettre en lumière, c'est quelque chose qui est solidaire du projet des philosophes du XVIIIe siècle, hein, donc la mise en lumière, alors, de la vérité, mais aussi, sans doute, de ce qui voudrait rester secret. Alors, Kant le fait dans un contexte bien précis et dans un texte très précis. Alors, Kant, hein, vous connaissez sans doute comme étant l'auteur de la critique de la raison pure, etc. Bon, mais c'est aussi un auteur qui a écrit sur des questions d'actualité, et en particulier à un moment bien précis de l'histoire, qui est la Révolution française. Hein, peut-être vous connaissez cette fameuse anecdote, hein, puisque Kant donc, alors, est né à Königsberg en 1724, il est mort à Königsberg en 1804, il ne s'est jamais éloigné de plus de 10 km de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad en enclave entre la Lituanie et la Pologne, enclave russe entre la Lituanie et la Pologne. Mais, et donc Kant, la seule fois où il avait une promenade quotidienne, et la seule fois où il a interrompu, dit-on, sa promenade, c'est lorsqu'il a appris la prise de la Bastille après le 14 juillet 1789. Bon. Au-delà de cette anecdote, Kant est beaucoup intervenu à l'époque dans les journaux, dans les journaux philosophiques, sinon dans les revues philosophiques, notamment berlinoises, sur des questions touchant, alors, indirectement à la Révolution française, parce que il a très vite été rappelé à l'ordre par les autorités prussiennes, des sujets prussiens, Kant. Et donc il s'est exprimé là-dessus, précisément d'une manière publique, mais d'une manière très générale. Non pas en disant « je soutiens la France révolutionnaire contre les horribles monarchies européennes coalisées », mais en se plaçant du point de vue général, du droit, du progrès, etc. Et parmi ces textes, alors vous avez un certain nombre de textes de Kant au moment de la Révolution française. Hein, vous avez le texte qu'on connaît sous le titre « Théorie et pratique hein, », qui s'intitule en fait « Sur le lieu commun, c'est peut-être vrai en pratique, en théorie, mais en pratique, cela ne vaut rien ». Un texte qui s'appelle « Le conflit des facultés » également. Et puis, il écrit un texte qui s'intitule « Vers la paix perpétuelle », alors qu'il publie en 1795. Et dans ce texte, il est question des moyens de parvenir à la paix, et à la paix perpétuelle, à une paix non pas momentanée, non pas accidentelle, mais à une paix durable. Alors, c'est une question qui est très agitée au XVIIIe siècle, hein, vous avez un écrit de l'abbé de Saint-Pierre sur ces questions, hein, sur la paix perpétuelle, et Kant estime, et c'est le lien avec la Révolution française, que l'un des principaux moyens pour parvenir à la paix perpétuelle, eh bien, c'est que, disons, pour le dire dans des termes qui sont ceux de la politique du XXe siècle, c'est que tous les États européens et tous les États du monde se dotent de constitutions républicaines, ça c'est le vocabulaire de Kant, ou ce qu'on pourrait appeler, nous, peut-être, quelque chose comme des États de droit. Alors, quel est le raisonnement de Kant? Il est relativement simple, s'agissant de son discours sur la paix, c'est-à-dire, en gros, si On définit la constitution républicaine par le fait que le souverain n'est autre que le peuple. Et si donc, avant de décider quelque chose comme une guerre, eh bien, il faut demander son avis au peuple, dans la mesure où le peuple est la principale victime des guerres, il est fort probable qu'il ne se décidera pas si légèrement à s'engager dans des aventures militaires et guerrières si on lui demande son avis. Bon. Ça, disons, c'est l'argument un peu central de Perpétuel. Et puis, à la toute fin du texte, Kant se dit, il s'interroge, parce que bon, comment est-ce qu'on parvient à des constitutions républicaines? Voilà. Évidemment, il y a un modèle à l'époque, hein, Kant publie ce texte en 1795, on va dire, bon, il y en a qui ont fait une constitution républicaine à l'époque, c'est les Français. Kant, pour tout un tas de raisons, ne peut pas dire, bah, c'est simple, il faut faire la révolution. Alors, pour tout un tas de raisons, il ne peut pas le dire. Pour des raisons, évidemment, pragmatiques. Kant s'est aventuré en 1793 à dire ce qu'il pensait en matière de religion, et immédiatement, il a été rappelé à l'ordre par le souverain, en personne, lui interdisant de se prononcer sur les questions de religion et de politique. Kant a obéi, hein, Kant est un sujet obéissant, mais alors il l'a fait d'une manière tout à fait rouée, disons, hein, de manière un peu subtile. Il s'est engagé personnellement auprès du souverain à ne plus évoquer de questions religieuses et politiques directement, hein, comme ça. Qu'est-ce qui se passe en 1797 ? Le roi meurt. Et Kant, immédiatement après, publie un texte en fait, qu'il avait sous le coude, qui est le Conflit des facultés, dans lequel, cette fois, il va très clairement parler de la Révolution française, et avec comme argument, « Oui, je m'étais engagé personnellement auprès du souverain. Je suis délié de ma promesse, puisque le souverain est mort. » Voilà. Donc, c'était pas au roi en général, mais c'était à cette personne-là auprès de laquelle je m'étais engagé. Alors, en 1795, on n'en est pas là, mais Kant est encore un peu sur la retenue s'agissant de la Révolution française. Mais on va le voir, il y a une autre raison, c'est que Kant, et pour des raisons qui ont à voir avec la question de la publicité, Kant n'est pas, à proprement parler, un partisan d'entreprise révolutionnaire. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à entendre aujourd'hui parce que parfois Kant est associé précisément à ce philosophe qui interrompt sa promenade au moment de la Révolution française. À l'époque, Kant passait pour quelqu'un qui était proche des Jacobins. Hein, ses prises de position dans la presse berlinoise étaient vues comme des positions de quelqu'un qui défendait la Révolution française. Alors, simplement pour clarifier les choses... Kant voit avec beaucoup d'intérêt, il va même parler de l'enthousiasme qui saisit les spectateurs devant le spectacle de la Révolution française. Donc Kant est tout à fait favorable à ce qui se fait en France à l'époque sous le nom de Révolution française. Simplement, le principe même d'une révolution, on parle là du renversement violent des autorités en place, c'est quelque chose auquel Kant est hostile. Alors, Kant est... une dimension un peu jésuite, hein, et parvient souvent à justifier la Révolution française en disant « Oui, mais en fait, toute une partie de ce qu'on appelle Révolution française, c'est pas vraiment une révolution. » Voilà. Donc, il va y sentir comme ça. Typiquement, vous avez ça à la fin notamment de son texte qui s'appelle « La doctrine du droit », enfin à la fin de la partie consacrée au droit public, où Kant explique, alors, après une longue note qui très compliqué sur la question du régicide, sur l'exécution de Louis XVI, Kant revient sur ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Révolution française? Alors, je ne sais pas si vous aviez vu le spectacle de Joël Pommera, il y a quelques mois, ou un an ou deux déjà maintenant, au TNP. Mais c'est un moment qui est assez bien rendu dans la pièce de Pommera, ce moment où le Louis XVI, ouvrant les états généraux, s'adresse aux députés des trois ordres, et en leur donnant pour mission de légiférer sur les finances du pays. Et là, il y a comme un moment un peu de « Ah bon, on va légiférer sur les... » Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Kant dit « Bah oui, mais en fait, là, il a fait une connerie, Louis XVI, là. Il a fait une connerie. En fait, il n'y a même pas besoin de révolution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit « Ok, je me démets de mon pouvoir de faire les lois et je vous le confie. » Ce n'est pas une révolution, dit Kant, c'est une réforme involontaire, hein, mais une réforme que le souverain a fait sur lui-même en laissant ce droit au public précisément, au peuple. Donc, Kant, voilà, il n'en reste pas moins que dans l'appendice du texte de 1795 vers la paix perpétuelle, Kant va très clairement prendre position contre la révolution, entendons par là vraiment le principe du renversement violent et le projet surtout, en tant que contre le projet révolutionnaire. Le projet révolutionnaire, entendons par là, ourdir le projet de renverser les autorités en place. Et pourquoi est-ce que un tel projet est condamnable? Précisément, nous dit Kant, parce qu'il n'est pas compatible avec le critère de la publicité. Alors, on comprend assez bien pourquoi. On comprend assez bien pourquoi. Si vous commencez à dire, bon ben voilà, là on va conspirer, on va pour faire un coup de force, pour mener une insurrection, pour renverser le pouvoir en place, si vous commencez à crier ça sur les toits, un, vous n'êtes pas un conspirateur très sérieux, deux, il va vous arriver des ennuis. Hein, avant même que vous puissiez. Donc, en somme, la publicité est contradictoire avec un projet de ce type. Alors, simplement, ça va être une sorte de conséquence secondaire chez Kant. Dans un premier temps, Kant dit, bon, voilà, comment est-ce que on détermine, un, si une action politique est conforme à l'idée qu'on peut se faire d'un état de droit, et deux, comment est-ce qu'on y parvient? Comment est-ce qu'on parvient à l'état de droit? Puisque la révolution est exclue. Hein, la pratique révolutionnaire, le soulèvement, il est exclu. Alors, pourquoi est-ce qu'il est exclu pour Kant? Alors, outre cette contradiction avec le principe de la publicité, tout simplement parce que il consiste à retourner à une forme de vide juridique, à une forme d'état de nature, dans lequel eh bien, le droit, si imparfait soit-il, est complètement suspendu. De sorte que l'idée de Kant, ça va être le moteur un peu de son réformisme à Kant, ça va être eh bien, le progrès du côté à la fois du souverain, des autorités souveraines, et du côté du peuple. Progrès qui consiste en quoi? Eh bien, à faire comme si, à se comporter comme si, eh bien, le peuple était souverain et avait réellement mandaté le souverain pour agir en son nom. Hein, c'est le moteur du réformisme kantien, ça va être de dire, eh bien, le contrat, Kant est un penseur du contrat social, mais très particulier, il ne considère pas du tout que le contrat a eu lieu, qu'il y a eu un contrat dans lequel un jour les hommes dispersés se sont réunis et ont décidé de mandater ou de déléguer leur pouvoir à un roi ou à une assemblée pour agir en leur nom. Il dit, c'est simplement une idée. C'est une idée à laquelle on doit se référer, c'est-à-dire que le souverain doit de plus en plus agir comme s'il avait été autorisé, donc comme s'il était une autorité en ce sens-là, une autorité autorisée par le peuple, et le peuple doit de plus en plus se comporter envers le souverain comme si, eh bien, le souverain parlait en son nom. Et ainsi, eh bien, peu à peu, on peut espérer que les choses vont finir par coïncider de plus en plus avec cette idée de la représentation. Alors, dans ce contexte-là, ce point de vue politique qui est celui de Kant, que vient faire la publicité? Eh bien, Kant va dire, voilà, finalement, le biais par lequel on peut parvenir à une réforme des institutions, il s'agit en quelque sorte de conjurer la révolution, d'éviter la violence révolutionnaire, eh bien, c'est que ce qui relève des affaires politiques soit de plus en plus public. Et pour ça, eh bien, il s'agit d'abord que l'action des gouvernants soit de plus en plus compatible avec la publicité. Alors, Kant va l'examiner dans ce texte sur la paix perpétuelle du point de vue, disons, du droit international. Du point de vue du droit international, qu'on appelle parfois à l'époque le droit des gens, donc c'est à faire des divisions classiques du droit. Kant va ajouter par rapport au droit public et par rapport au droit des gens un troisième droit qui serait le droit cosmopolitique. Kant, un penseur du cosmopolitisme, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais du point de vue donc du droit international, en somme, il s'agit de se demander si la manière dont se comportent les États les uns par rapport aux autres, et donc d'un point de vue extérieur comme des puissances opposées les unes aux autres, eh bien si ce comportement peut être compatible avec la publicité. Il s'agit donc d'examiner les principes suivant lesquels agissent les gouvernants, et de dire, est-ce que ces principes, eh bien, ils sont conformes à l'idée qu'on peut se faire de la justice et du droit. Alors, ces principes, attention, ce ne sont évidemment pas les principes qui sont allégués par les gouvernants. Parce que ces principes, évidemment, sont toujours vertueux. Mais le règne des relations internationales, les relations internationales, c'est le règne de l'hypocrisie. On sait bien que l'hypocrisie, c'est l'hommage que le vice rend à la vertu, et donc c'est le vice qui se part du manteau de la vertu. Bon. Il s'agit bien plutôt de dire, voilà, étant donné ce qu'ils agissent, étant donné ce que sont leurs motivations réelles, on peut déduire de là quels sont les principes de leur action. Et se demander si ce principe, eh bien, il continuerait à être opératoire s'il était rendu public. Alors, vous allez voir, c'est finalement assez simple. Si on prend un exemple, alors un exemple qui va nous parler, mais on n'est pas très loin des exemples que prend Kant dans ce passage de Vers la paix perpétuelle. L'exemple, par exemple, de la guerre déclenchée en Irak par George Bush Jr. Il y a une quinzaine d'années. Bon, on sait très bien quelles étaient les motivations de cette guerre. Hein, c'était de mettre la main sur un pays qui était tout à fait stratégique du point de vue notamment des ressources de son sous-sol, et en particulier de ses ressources pétrolières. Bon. Donc, simplement, évidemment, George Bush ne pouvait, et toute la qui l'entourait, ne pouvait pas, évidemment pas dire, bon, moi, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir contrôler le pétrole irakien. Bon, on ne pouvait pas dire ça. Bon. C'était pas, pourquoi ? Parce que, dans l'espace public, évidemment, ça aurait déclenché l'opposition. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ah, Saddam Hussein possède des armes de destruction massive, et donc, il faut à tout prix attaquer ce pays parce qu'il s'apprête à mener une attaque de grande envergure contre l'Occident éclairé et les États de droit, la démocratie, etc. Donc, si on résume les choses ici, la maxime de l'action, donc la maxime, hein, c'est la proposition qui formule l'action à entreprendre, ça n'est pas on va aller leur piquer leur pétrole, ça n'est pas non plus la justification vertueuse, hein, qui est donc la guerre préventive, c'est un exemple d'ailleurs que prend Kant, hein, la guerre préventive, c'est nous voulons mettre la main sur leur pétrole, nous ne pouvons pas le dire publiquement, mais donc nous allons bidouiller une histoire d'armes de destruction massive pour avoir un prétexte pour les attaquer. Voilà. Donc la maxime de l'action, c'est ça. Alors évidemment, si cette maxime devait être rendue publique, ses effets seraient absolument catastrophiques. Hein, si, donc imaginez, hein, George Bush arrivant à la télévision et disant, bon, alors on veut mettre la main sur leur pétrole, mais on a besoin de vous baratiner comme quoi il nous faut une bonne raison pour les... on a une vraie raison, mais il nous faut une bonne raison pour les attaquer. Donc, on va prétendre ça, mais en fait, c'est faux. Donc voilà, c'est le principe du mensonge. Hein, voilà, en fait, c'est faux. En fait, ce qu'on veut, c'est les envoyer pour mettre la main sur leur pétrole. Donc, ici, c'est un cas qu'on voit assez simple. Et on voit qu'ici, le principe de publicité, c'est un principe alors qui s'applique négativement et qui sert à éliminer un certain nombre de maximes de la politique réelle, voire de la réelle politique, comme étant fondamentalement immoral. Immoral au sens très large, au sens de contraire à l'idée qu'on peut se faire du droit et de la justice. Voilà. Donc, dans ce contexte, la publication des maximes, eh bien, consiste en quelque chose comme une dénonciation, un dévoilement. Hein, consiste à dénoncer publiquement, précisément, à dire, ils prétendent déclencher cette opération armée pour tel motif prétendument vertueux. La réalité est tout autre. Saddam Hussein, la guerre d'armes de destruction massive, hein, s'il pouvait, il en aurait, mais il peut pas, voilà. Hein. Et puis le peu qu'il a, d'ailleurs, c'est nous qui lui avons vendu, bon. Les armes chimiques, tout ça, bon. Et deux, la vraie raison est tout autre, c'est voilà, le monopoly au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Donc, ici, vous voyez qu'on est dans un cas typique, alors qui est tout à fait caractéristique, hein, d'une entreprise qui est celle, comme celle des Lumières, qui consiste précisément, eh bien, à jeter une lumière crue sur les motivations réelles de la politique, et en l'occurrence de la politique internationale. Alors, Kant aborde ces questions à une époque où ce sont des questions tout à fait brûlantes. Hein, en 1795, l'Europe est en guerre. L'Europe est en guerre, et en particulier le pays dont Kant est le sujet, est en guerre contre un pays étranger, et parmi les choses que Kant va absolument proscrire dans ces règles qu'il entend dégager pour le droit international, il y a par exemple la possibilité de changer le régime d'un pays étranger. Voilà. Or, c'est précisément ce que l'Europe coalisée prétend faire par rapport à la France révolutionnaire, hein, prétend remettre sur le trône un monarque, plus Louis XVI, puisque c'est trop tard, mais l'un de ses descendants ou de ses collatéraux. Ce critère de la publicité des maximes, il est d'abord un critère, on pourrait dire, négatif. Kant dit, voilà, si une maxime politique n'est pas compatible avec le fait qu'elle soit rendue publique, avec sa publicité, voilà, eh bien, c'est qu'elle est fondamentalement injuste, contraire aux exigences qui sont portées par le concept de droit. Donc c'est un critère discriminant et un critère négatif. Seulement, Kant essaie d'aller un peu plus loin. Donc ça, en un sens, vous voyez, là vous avez toute une lignée, hein, de dénonciation de la politique étrangère, des grandes puissances, qui peut s'autoriser de ce type de choses. Hein. La révélation des secrets d'État jusqu'à une époque récente, hein, les fuites du type WikiLeaks, en un sens, eh bien, on peut les justifier de ce point de vue-là. Ah, précisément, ces secrets, ça ne devrait pas rester secret, parce que ça engage des questions qui devraient être pouvoir débattues publiquement, et puis il est tout à fait intéressant de savoir quelles sont les motivations réelles d'un certain nombre d'entreprises plus ou moins guerrières, entreprises menées par les gouvernants, notamment occidentaux. Ça nous intéresse, disons, en tant que citoyens, de savoir, voilà, ce que l'on fait en notre nom, etc. Y compris parce que nous pouvons très bien en endurer les conséquences et les dégâts collatéraux sous forme de répliques diverses. Simplement, Kant ne va pas en rester là, ne va pas en rester, disons, à la dénonciation de la justification vertueuse d'actes fondamentalement injustes. Et il ne va pas en rester là pour deux raisons. Premièrement, parce que, dit-il, parfois c'est extrêmement difficile de... c'était pas suffisant, ce critère, voilà. Peut-être parfois, eh bien, la justification vertueuse peut sembler effectivement juste, bon, même si le principe de la guerre préventive, le principe du changement de régime dans un pays voisin est tout à fait proscrit, eh bien, il y a peut-être des cas où on peut, par exemple, feindre d'avoir été attaqué, et bien dire, c'est une guerre défensive, bon, voilà. Voilà, ça peut arriver. Et puis, surtout parce que Kant est à la recherche aussi d'un critère positif. Et c'est dans ce contexte qu'il va dire, voilà, il y a une autre manière d'utiliser ce critère de la publicité, c'est de dire non plus si une maxime politique est incompatible avec la publicité, elle est injuste, mais, vous voyez que la réciproque, si on prend en termes de logique, ce serait si une maxime est compatible avec la publicité, c'est donc qu'elle est juste. Kant dit non, ça non, parce que parfois, eh bien, ça ne fonctionne pas, ça. Hein, il y a des cas très vicieux, etc. Il y a un intermède. Donc ça n'est pas la position simplement opposée, hein, ou contradictoire, disons, hein, voilà, le compatible, pas compatible. C'est une autre proposition qui est plutôt la proposition contraire, consistant à dire si une maxime politique, pour produire ses effets, exige la publicité, alors elle a... il y a toutes les chances pour qu'elle soit conforme aux exigences du droit. Alors, qu'est-ce que Kant veut dire par là? Alors, Kant a pour cela un modèle qui est le modèle précisément de la loi. Précisément, la justice, pour que quelque chose soit juste, la justice, elle se rend publiquement. Et la justice, elle repose sur des principes qui sont des principes publics. Hein, nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Hein. Et les règles, par exemple, du jeu politique, ce sont des règles publiques. Enfin... Les règles écrites, hein. Bon, c'est bien que c'est pas tout à fait le cas. Mais l'idée de Kant, c'est précisément que tout ce qui concerne la sphère politique doit devenir de plus en plus public. Il doit y avoir de moins en moins de choses qui demeurent obscures, qui demeurent cachées. Alors, de ce point de vue, évidemment, le propos de Kant, il le développe sur le terrain du droit international, mais ça vaut pour l'ensemble de la sphère de ce qu'on appelle à l'époque précisément le droit public. C'est ce qu'on appelle, c'est la dénomination latine, le jus publicum, mais en allemand, on l'appelle le droit d'État, le Staatsrecht. Mais Kant, en général, traduit par, avec les mots latins, entre parenthèses, c'est bien le jus publicum. Bon. Donc, pour toute la sphère du droit public, qu'elle soit nationale ou internationale. Donc, en somme, tout ce qui concerne les affaires politiques, un, doit être compatible avec la publicité, hein, donc les principes suivant lesquels on agit doivent être compatibles avec la publicité, principes suivant lesquels on agit réellement, hein, pas les principes qu'on allègue, mais les principes qui sont réellement ceux de notre action. Et deuxièmement, on peut être sûr qu'un principe est juste s'il exige la publicité pour produire ses effets. D'une certaine manière, vous voyez que ce concept de publicité, il est porteur d'une forme de revendication. Hein, voilà, que de plus en plus de choses soient mises sur la place publique, hein, soient l'objet, on le voit, de débats éventuellement, qu'on puisse en débattre publiquement et en termes généraux. Hein. Alors, c'est d'une certaine manière là-dessus que va se greffer l'exigence contemporaine de la transparence. Mais évidemment, il faudra pour ça qu'on bascule de ce qui est de l'ordre de la sphère publique à ce qui concerne l'ensemble des personnes. Alors comment c'est possible? Sans doute si on suppose quelque chose non plus comme une souveraineté populaire, mais comme une souveraineté individuelle. Alors, vous avez un certain nombre d'essayistes ou de philosophes politiques contemporains depuis les années 60 ou 70, hein, qui ont notamment dans ce qu'on appelle le libertarisme, hein, voire l'anarcho-capitalisme, qui ont précisément considèrent précisément, on en parlera surtout la fois prochaine, que tous les êtres humains sont en quelque sorte comme des petits gouvernements, et par conséquent, eh bien, s'ils se rapportent les uns aux autres, les uns comme des puissances, eh bien, on peut exiger d'eux, hein, et il est souhaitable qu'ils soient de plus en plus transparents les uns avec les autres. Et par conséquent, c'est même considéré. Alors, on essaiera de voir ça. Il y a des textes, hein, des promoteurs des réseaux sociaux, hein, des gens comme Zuckerberg, etc. C'est des gens qui ont été biberonnés à ce type d'idéologie, eh bien, pour qui c'est une sorte de vecteur de moralisation, finalement. De moralisation, parce que, eh bien, à force de se mettre en scène publiquement, eh bien, on finira par coller de plus en plus au personnage que l'on est publiquement. Voilà, on ressemble de plus en plus à son profil Facebook. Mais évidemment, chez Kant, on n'en est pas là. Chez Kant, cette question de la publicité, eh bien, elle s'applique à ce qui est public, à ce qui est public et à ce qui doit être public, c'est-à-dire à tout ce qui concerne, tout ce qui engage la vie politique, qu'elle soit la politique nationale, hein, ou la politique internationale. Et Kant écrit à une époque où précisément on dénonce ce qui relève du secret. Hein, les mesures discrétionnaires, hein, les lettres de cachet, hein, par lesquelles, eh bien, le souverain pouvait, sur simple décision, emprisonner quelqu'un, le mettre au secret, comme on dit. Hein, voilà. Au contraire, Kant va défendre, alors non pas la disparition des prisons, mais en tout cas des jugements publics, une justice exercée publiquement, avec une sanction qui est publique, qui est déterminée par la loi, etc. Et non pas une sanction arbitraire qui relève précisément de la mesure discrétionnaire. Alors, vous avez une postérité de cette conception kantienne de la publicité, notamment au XXe siècle, chez un auteur, quoi, vous avez peut-être entendu parler, hein, qui est encore vivant, même s'il est pas loin de 90 ans, je crois, maintenant, qui est Jürgen Habermas, hein, vous avez peut-être entendu parler, donc Jürgen Habermas, qui est un penseur de l'école de Francfort, même si son inscription dans ce qu'on appelle donc la théorie critique et l'école de Francfort a été un temps un peu conflictuel. Donc c'est cette école, disons, qui naît dans les années 30 et autour de penseurs qui, disons, au départ se réclament de Marx, éventuellement parfois de Freud, donc des auteurs comme Horkheimer, Marcuse, Adorno, etc. Et bien, Habermas, c'est la génération suivante par rapport au grand fondateur de l'école de Francfort. Et il émerge dans les années 60. Et il émerge précisément dans les années 60 avec un premier grand ouvrage qui est consacré à la notion d'espace public. Alors c'est en tout cas sous ce titre-là qu'il est traduit en français, hein, sous le titre, hein, L'espace public, de un livre de 1962, qui s'intitule L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Alors, la société bourgeoise, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas forcément un terme péjoratif, hein, chez Habermas, hein, le terme allemand, hein, de Bürgerliche Gesellschaft, hein, peut signifier aussi bien société bourgeoise que société civile. Hein, donc, au sens où émerge quelque chose comme une société civile, hein, au XVIIIe et XIXe siècle. Parfois, on traduit d'ailleurs, notamment chez le Marx de jeunesse, lorsqu'il discute de ces concepts-là, on parle de société civile bourgeoise, parce que précisément, eh bien, Marx joue sur les deux acceptions de le burger, un peu comme en français dans la l'ancienne langue, hein, c'est l'habitant du bourg, hein, c'est le bourgeois en ce sens-là, mais donc c'est l'habitant de la cité, et donc c'est aussi le citoyen. Voilà, hein, donc bürgerliche, hein, ça peut signifier civil ou bourgeoise. Alors dans ce texte, hein, sur qui s'intitule en allemand non pas, hein, l'espace public, archéologie de la publicité, etc., mais Strukturwandel der Öffentlichkeit. Ce qui, comme vous êtes tous germanistes, vous l'avez parfaitement compris, signifie, hein, mutation structurelle de la publicité. Hein, mutation structurelle de la publicité. Alors, c'est un titre que je trouve tout à fait intéressant. C'est un peu ça qui nous occupe ici. Hein, comment structurellement, éventuellement, la notion de publicité a pu se modifier. Alors, l'idée d'Habermas dans son premier grand ouvrage, hein, en 1962, c'est de décrire cette mutation structurelle de l'espace public, en ce sens que cet espace public, eh bien, pour Habermas, il en est venu à être de moins en moins contrôlé par l'État. Hein, donc dans un premier temps, c'est ce que sous-entend Habermas, l'espace public, c'était l'espace dans lequel l'État rendait public un certain nombre de choses. Voilà. Donc il est de moins en moins cet espace contrôlé par l'État, et il est de plus en plus une sphère dans laquelle les individus qui composent désormais ce qu'on va appeler le public, eh bien, peuvent critiquer le pouvoir de l'État. Donc c'est un espace dans lequel, eh bien, on remet en question le pouvoir de l'État, on discute de son orientation, de l'infléchissement qu'il est possible éventuellement d'apporter à sa politique. Et donc cette mutation, eh bien, on peut dire que Habermas la repère historiquement, hein, voilà, comme quelque chose qui s'est produit progressivement dans l'histoire, et qu'il transcrit en quelque sorte historiquement ce que Kant appelait de ses voeux d'un point de vue, disons, normatif. Hein, Kant disait, voilà, il faut que de plus en plus de choses soient rendues publiques et soient livrées au débat public. Et Habermas, lui, l'interprète en disant, bah oui, historiquement, c'est ce qui s'est produit. Hein, l'espace public est devenu de moins en moins un espace de publication des décisions de l'État et de plus en plus un espace de débat à propos, et de débat critique à propos du pouvoir de l'État. Alors, Habermas ne se contente pas de transcrire comme ça Kant historiquement. Il ajoute quelque chose, c'est que précisément ce critère de publicité est un critère tout à fait ultime chez lui. Chez Kant, ce critère, eh bien, il ne valait que par rapport à un concept de droit. Par rapport à un concept de droit qui lui-même était fondé rationnellement. Alors c'est tout l'entreprise de Kant, notamment dans la doctrine du droit, d'essayer de produire un concept de droit et qui ne soit pas contradictoire. Pourquoi est-ce que c'est compliqué un concept de droit? Parce que qu'est-ce que c'est quand on dit qu'on a droit à quelque chose? On ne dit pas simplement je suis légitime à vouloir ça. Hein, lorsqu'on dit j'ai droit à quelque chose, on entend non seulement une prétention à accomplir une action ou une prétention sur un objet, mais aussi la possibilité que, éventuellement, quiconque m'empêcherait d'accéder à ce droit soit contraint de me laisser faire. Donc, le droit, c'est ce qui implique, et c'est la différence pour Kant du droit par rapport à la morale, c'est ce qui implique un élément de contrainte. Un élément de contrainte. Hein, le droit, c'est ce qui ajoute hein, l'élément de la contrainte, et donc de l'État. Bon. Et donc, Kant cherche à penser un concept de droit qui soit non contradictoire. En somme, pourquoi est-ce que c'est contradictoire? Parce que, bah, en principe, dans quelle mesure la contrainte n'est pas contradictoire avec la liberté du sujet? Kant va dire, bah, la condition, c'est que cette contrainte, ce soit une contrainte autorisée par moi. Hein, et que, de sorte que la règle au nom de laquelle je contrains autrui, eh bien, d'une, j'y ai consenti, donc un principe de consentement à la loi, et donc, à partir de là, on voit tout ce qui en découle du côté de la souveraineté populaire, éventuellement, et puis deuxièmement, que cette règle, non seulement j'y ai consenti, mais autrui puisse également me contraindre par son intermédiaire. Hein, donc, en somme, ce que je dis, voilà, il est interdit, ce que vous voulez, hein, d'assassiner son voisin, eh bien, si j'appelle la force publique pour que mon voisin ne m'assassine pas à coup de hache, eh bien, la force publique pourra aussi intervenir pour m'empêcher à mon tour d'aller massacrer mon voisin, cette fois à coup de sabre japonais, pour changer. Donc, chez Kant, donc, c'est ce concept de droit qui est premier, et donc il est fondé dans la liberté du sujet. Et le critère de la publicité, il vient dans un second temps pour dire, voilà, est-ce que les maximes politiques sont conformes au concept de droit? Oui, nécessairement si elles exigent la publicité. Non, nécessairement si elles sont contradictoires avec un principe de publicité. Chez Habermas, on ne va pas du tout avoir ce schéma-là. Et en particulier, Habermas va se passer, si l'on veut, d'un concept normatif de droit, va se passer de critères, on va dire, transcendantaux de justice, et va faire de la publicité le critère ultime, et un critère qui, en quelque sorte, se fonde lui-même. On a en somme le passage avec Habermas d'un critère de légitimation des maximes d'État, d'interrogation sur la légitimité des maximes de la politique dans le contexte d'une interrogation sur le droit public, à un critère de légitimation de l'action politique en général. Hein, c'est légitime dans la mesure où, eh bien, ça étend le domaine de la publicité. Alors, pour quelles raisons? Comment est-ce qu'Habermas peut faire ça? Alors, il y a toute une fondation que Habermas va expliciter ultérieurement, hein, notamment dans son ouvrage de 1981, hein, Théorie de l'agir communicationnel. Je ne sais pas si vous avez déjà mis le nez dans Habermas, c'est quelqu'un qui malheureusement, enfin, il dit des choses très intéressantes, etc., mais qui écrit très mal. C'est quand même, on prend quand même un parpaing sur les deux hémisphères quand on lit du Habermas. C'est pas quelqu'un qui a une écriture très fluide. Donc, la théorie de l'agir communicationnel, précisément, elle se base sur une conception de la raison comme, eh bien, construite historiquement et comme caractérisée précisément comme un espace de discussion critique. Donc, qu'est-ce qui la discussion, en quelque sorte, eh bien, ou l'espace public, l'extension du domaine de la publicité, ce qui est livré à la discussion publique, eh bien, c'est positif, non pas eu égard à un critère qui serait celui du droit, mais c'est bien en soi, hein, parce que précisément, c'est émancipateur. C'est le moment où, eh bien, la rationalité se répand, hein, le moment du débat public, hein, du débat public. Hein, en somme, où, eh bien, on confronte publiquement, par exemple, ces arguments. Alors, on voit bien ce que ça peut signifier, hein, et la conception, disons, collective de la raison, hein, ou de la rationalité qui en émerge. On voit bien qu'effectivement, hein, lorsque l'on va débattre publiquement d'une question, il y a des arguments qu'on ne peut pas employer. Hein, qu'on ne peut pas employer, des arguments du genre « Non mais toi, tais-toi, t'es une femme. Hein, » Ça, vous imaginez, dans le débat public, c'est devenu un peu plus compliqué. Alors, même si les gens n'en pensent pas moins, mais publiquement, précisément, ils ne peuvent pas le dire. Et cette censure entre guillemets, hein, de liée à l'espace public, c'est une censure tout à fait rationnelle pour Habermas. Ça finit par produire davantage de rationalité, parce que, eh bien, à force de se dire qu'on ne peut, il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement, on peut dire que c'est des choses, peut-être que quand on les pense, on pense un truc qui ne vaut pas grand-chose. Hein, voilà. Donc le critère de la publicité, chez quelqu'un comme Habermas, il en vient à être un critère de justification de l'action politique, et bon, ce qui va dans le sens d'un accroissement de la publicité, d'un accroissement de la communication entre les individus, d'un accroissement de l'espace public, du débat public entre les individus. Alors, ce que partage... En revanche, Habermas avec Kant, c'est, on pourrait dire, une forme de réformisme. Hein. L'idée, c'est que, eh bien, les moments révolutionnaires, au contraire, eh bien, sont des moments dans lesquels il y a un blocage face à la publicité. Et chez Habermas comme chez Kant, il y a l'idée selon laquelle, eh bien, la réforme politique doit en passer par l'extension du domaine de la publicité. Alors, cette extension, elle est vue comme étant à la fois, un moyen et une fin. C'est à la fois donc un moyen au sens où, de plus en plus, si des choses sont rendues publiques, eh bien, on va se rapprocher d'un idéal d'émancipation, pour le dire dans les termes d'Habermas, ou vers un idéal républicain dans les termes qui sont ceux de Kant, mais de ce fait le moyen est aussi adéquat à la fin, parce que cette constitution républicaine pour Kant, c'est une constitution fondée sur la souveraineté du peuple, toutes les questions politiques eh bien relèvent in fine d'une décision qui est celle du peuple et donc d'un débat intervenant au sein du peuple et d'une décision éventuellement par le biais de ses représentants sur les grandes orientations politiques. Et puis c'est le cas aussi chez Habermas, hein, puisque l'état le plus avancé en termes d'émancipation, c'est celui dans lequel, en un sens, la communication entre les membres de la communauté serait la plus intense. Alors à partir de là, il y a au moins deux étapes qui vont consister en l'extension de ce principe de publicité, alors à la vie politique en général, puis en sa transformation en un impératif de transparence. La première étape, c'est à travers l'exclusion, chez quelqu'un comme Kant, des menées révolutionnaires, comme de toute entreprise qui requiert le secret pour parvenir à ses fins. Cette première étape, elle est donc déjà amorcée chez Kant, mais on la retrouve également chez Habermas. Alors, ça a quelque chose qui est évidemment problématique, hein, notamment, alors peut-être plus encore chez Habermas que chez Kant. Pour quelles raisons ? Alors, chez Kant, il y a l'idée d'une exclusion du principe révolutionnaire. En somme, on peut pas, sans contradiction, selon Kant, avoir la révolution pour principe. Pour quelle raison ? Bah parce que, précisément, la révolution, c'est le renversement, et si on autorise le renversement des autorités en place, eh bien, on risque d'autoriser aussi le renversement des nouvelles autorités qui interviendraient. Alors, c'est tout le sens, notamment chez Kant, du refus, alors exprimé notamment dans son texte Théorie et pratique, du refus du droit de résistance. Hein, Kant refuse l'expression même de droit de résistance. Pour lui, c'est une contradiction dans les termes. On ne peut pas donner le droit à des sujets de résister. En somme, au nom de quoi est-ce qu'on pourrait se réclamer d'un tel droit ? Ainsi, le droit doit avoir le sens qu'on a dégagé tout à l'heure, qui est un droit garanti par une forme de contrainte. Au nom de quoi, par exemple, est-ce que je peux résister au souverain ? Dans la mesure où le souverain, si je lui résiste, en un sens, je le contrains. Or, le souverain, c'est précisément la source de tout droit. Et donc, en somme, je résiste à la source du droit, et donc à toute possibilité du droit. Et donc, je peux résister, factuellement, et de fait. Hein, l'histoire nous apprend qu'il y a 1000 entreprises de résistance au souverain, voire 1000 tentatives de le renverser, mais ça ne peut se réclamer d'aucun droit. Donc ça, c'est la position de principe pour Kant, et évidemment, cette entreprise de résister au souverain, elle est incompatible pour lui avec le critère de la publicité. Mais Kant n'est pas non plus naïf. Hein. Il sait très bien que dans l'histoire, de fait, il y a des révolutions. Et probablement, que des formes de renversement violent des autorités sont quelque chose d'inévitable. Donc, Kant là-dessus, alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sa position par rapport à la Révolution française hein, est tout à fait ambivalente. Hein. Il en admire l'œuvre, il en désapprouve le principe dès lors que ce principe serait révolutionnaire. Néanmoins, une fois que les nouvelles autorités sont arrivées au pouvoir, Kant dit, évidemment, on n'a absolument aucun droit au nom de l'origine éventuellement révolutionnaire du nouveau pouvoir, de les renverser. C'est, alors, vous avez toute une tradition de lecture de ces textes de Kant autour de la Révolution française qui consiste à les étudier par rapport à leur contexte. C'est-à-dire, ah tiens, par exemple, Kant, à quel moment il se met à critiquer le droit de résistance? Il le fait en 1793. Et en 1793, donc vous avez notamment un historien de la philosophie marxiste, Bontin, disons, ouais, stalinien, qui s'appelait Domenico Lo Sordo, qui est mort il y a un an ou deux, et lui donc a fait un très bon texte, un très bon livre sur Kant et la Révolution française, dans lequel il dit, ben, regardez, en fait, lorsque Kant s'en prend au droit de résistance, en fait, c'est à une époque où le droit de résistance est allégué par qui? Par les contre-révolutionnaires, qui eux disent, ah non, mais c'est scandaleux, ils ont renversé le souverain légitime, et donc on a le droit de résister à ce pouvoir illégitime, issu d'un renversement violent, on est donc fondé à lui résister et à le renverser. Et Kant dit non, ils n'avaient pas le droit de faire la révolution, bon, mais ils ont réussi. Et bien maintenant, c'est eux l'autorité légitime. Et donc, c'est à eux qu'il faut obéir. Quand bien même, on ne serait pas d'accord avec ce qui a précédé. Et Kant dit, de toute façon, n'importe quel pouvoir, ses origines ne sont jamais légitimes. C'est toujours, le pouvoir est toujours issu de la violence. Donc si on veut que les choses s'améliorent, on va pas commencer à chercher à dire, ah oui, mais ils sont issus de la violence, donc on a le droit de leur faire violence, parce que sinon, ça n'en finira jamais. Ça n'en finira jamais. Donc Kant, là-dessus, vous voyez, il a une position qui est assez fine, et qui consiste à dire, oui, le moteur souhaitable du progrès politique, c'est la réforme des institutions, la réforme que le souverain entreprend sur lui-même, l'extension du domaine de la publicité, mais on sait bien que dans les faits, très souvent, il est inévitable, en particulier lorsque le souverain se comporte violemment, qu'il prenne en retour la violence de son propre peuple. Donc, Kant là-dessus n'est pas, prononce une condamnation de principe, si l'on veut, de ce qui s'oppose à la publicité, ce qui ne signifie pas que ce qui est issu de ces actions non compatibles avec la publicité, hein, projet plus ou moins de conspiration, d'insurrection, de renversement violent, soit nécessairement jugé négativement par lui. D'une certaine manière, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour Habermas. Kant encore a un concept normatif de droit. Il peut se dire, bon, quand même, ce qui sort de la Révolution française, d'accord, ils ont coupé la tête du roi, ça c'était pas très sport, il y a eu des insurrections, etc. Bon, c'était pas net, hein, du point de vue de la pureté des moyens, franchement, c'était pas complètement ça. Mais bon, ce qui sort de la Révolution française, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus proche à l'idée qu'on peut se faire d'un État gouverné selon des principes conformes au concept de droit que ce qui précédait. Donc, ce concept normatif de droit, malgré tout, chez Kant, lui permet d'avoir une position mesurée. Chez Habermas, c'est un peu plus compliqué. Si on s'en tient à l'idée d'agir communicationnel, et à l'idée que est bon tout ce qui va dans le sens d'un accroissement du domaine du débat public, on peut très facilement retomber, c'est parfois arrivé chez Habermas, mais qui, heureusement, ne s'en tient pas forcément à ce type de principe entendu étroitement, va dire oui, mais quand même, ces gens qui font la grève, ces gens qui manifestent violemment, etc., est-ce que ça serait pas mieux quand même de s'asseoir autour d'une table et de discuter entre gens bien élevés? Bon. Il peut y avoir cette compréhension-là, en particulier, vous avez tout un courant en France de réception de la théorie critique et d'Habermas, hein, chez des gens comme Luc Ferry, Alain Renaud, ce genre de types, hein, qui ont été un peu les introducteurs, hein, de la théorie critique dans les années 70, comme une sorte d'antidote au marxisme révolutionnaire. Ouais, vous avez cette idée. Bon, c'est pas bon parce que ça ne va pas dans le bon sens. Alors, de fait, Habermas a une compréhension beaucoup plus large que la simple discussion bourgeoise entre gens de bonne compagnie qui s'assoient autour d'une table avec des bonnes manières, de la manière dont on accroît, dont on ouvre un espace de publicité. Et Habermas sait très bien que parfois, eh bien, il faut l'ouverture de cet espace de publicité et de discussion publique et d'agir communicationnel, eh bien, il en passe par des moyens qui ne sont pas forcément des moyens d'ordre linguistique, hein, qui peuvent être de l'ordre du rapport de force. Simplement, dans ce cas, eh bien, le critère demeure néanmoins celui d'une société dans laquelle on communiquerait mieux. Dans lesquels eh bien, il y aurait une intensification des rapports linguistiques, une intensification de ce qui est livré à la discussion, à la discussion publique. Mais simplement, vous voyez que ça ouvre la voie à une réintroduction, dans ce cas, d'une contradiction entre les moyens et les fins. Eh bien, peut-être que pour parvenir à des fins qui sont de l'ordre de la publicité, il faut en passer par des moyens qui ne sont pas forcément ceux de la discussion. Il n'en reste pas moins, même si donc on a ces précautions-là chez Habermas, que la publicité, elle a une dimension beaucoup plus fondatrice chez lui qu'elle ne l'avait chez Kant. Hein. Chez Kant restait ce concept normatif de droit, voilà, qui permettait malgré tout de juger les constitutions existantes, les régimes politiques existants, en disant « ça, c'est pas bon ». Cette manière d'agir, c'est pas du tout une manière conforme au droit. Ici, c'est l'espace public lui-même qui sert de critère. Qu'est-ce qui accroît le domaine de ce qui peut être décidé publiquement? Et d'une certaine manière, cette insistance plus grande sur la publicité, c'est l'une des voies par lesquelles, eh bien, la dimension de l'injonction à la transparence va pouvoir s'introduire. Donc c'est la première étape dont je parlais qui va nous conduire de la publicité à la transparence. Enfin, si c'est public, c'est que c'est bien. En un sens, pour le dire en des termes très grossiers. Donc non seulement la publicité est un critère permettant de distinguer entre différentes maximes politiques, mais elle fonde sa propre légitimité, hein, à travers la reconnaissance de la rationalité immanente à l'espace public, hein, donc une conception comme ça, collective de la raison. Alors évidemment, ça ne suffit pas pour qu'on passe de l'agir communicationnel à l'injonction à la transparence. Donc la question sur laquelle je redémarrerai la fois prochaine, qu'il faudra se poser, c'est comment est-ce qu'on est passé de cette extension du principe de la publicité à l'ensemble de ce qui relève de la politique et des questions d'émancipation. Hein, et que typiquement, hein, à partir du moment où on fait l'objet d'un débat public de questions qu'on considérait jusqu'à présent comme privées, il y a quelque chose comme, en tout cas c'est le point de vue d'Habermas, hein, comme un enjeu émancipateur. À partir du moment où on dit par exemple, les rapports entre hommes et femmes, par exemple, bah non, c'est pas juste une question privée. C'est ce genre de choses qu'Habermas a en vue. C'est pas juste une question privée, on pourrait dire, ah ben non, mais ça, c'est les rapports entre époux, hein, c'est une question privée. Alors, éventuellement, bon, du point de vue du droit, voilà, on se met en conformité avec un truc d'égalité formelle, mais c'est tout. Ben non, hein, à un moment où ça devient, où c'est porté sur la place publique, où émerge un mouvement féministe qui prend la parole publiquement et qui revendique l'égalité, eh bien, c'est une question qui devient une question publique, qui devient une question politique et qui a des effets émancipateurs. Alors simplement, comment est-ce qu'on passe de ça, de ce principe d'extension de la publicité, de ce qui doit être mis publiquement en débat, de ce qui doit relever de décision publique ou de délibération publique, à l'impératif de transparence qui ne vaut plus seulement pour des choses politiques, hein, pour des affaires publiques, mais qui aboutit par exemple hein, voilà, au droit de regard de chacun sur la vie d'autrui, à la mise en scène de soi, etc. Avec des cas qui peuvent être parfois un peu à la limite. Hein, la manière dont se passent les discussions autour de, bah, précisément, de questions de domination masculine sur les réseaux sociaux. Hein, est-ce que ça, ce qu'implique le fait d'utiliser les réseaux sociaux dans ces questions-là, ces questions qui sont, qu'il est impossible de trancher comme ça à brûle pour point, mais qui sont des questions intéressantes à envisager. Donc, ce que j'essaierai, et je repartirai de là la fois prochaine, je vais essayer de nous laisser un peu de temps pour la discussion, il me semble que le paradoxe de cette extension à la vie privée du principe de publicité et de son renversement en impératif de transparence, injonction à se mettre en scène et à se donner à voir dans la sphère publique. Le paradoxe, c'est que cette extension, elle résulte moins d'une politisation de ce qui relèverait de l'intime, à l'instar de ce que j'ai dit tout à l'heure, de la manière dont on a pu dire que les relations privées, les rapports privés étaient aussi des questions politiques, voilà, ou dans un registre plus sinistre, lors de l'intrusion éventuellement du politique, au sens de l'État éventuellement totalitaire, dans la vie intime ou la vie privée des individus. Bien plutôt, elle s'accompagne, cette extension de la publicité à la vie privée, d'une dépolitisation radicale de ces questions. C'est le grand paradoxe, me semble-t-il, c'est que l'impératif de transparence, en même temps, il se donne comme un impératif, en quelque sorte, infrapolitique. Voilà. En somme, on n'est pas du tout dans un registre où on va nous dire « Ah, on va aller fouiller dans vos petits secrets, mais montre-moi tes petits secrets, parce que c'est cool. Ouais. » Dans ce registre-là. Alors qui va de pair, évidemment, avec peut-être le passage du libéralisme au néolibéralisme. Et ce que fait aux subjectivités ce passage du libéralisme au néolibéralisme. Alors, c'est en tout cas l'hypothèse que j'essaierai d'examiner la fois prochaine. En tout cas, vous voyez que cette idée d'une mise en scène de soi, d'une injonction à donner sa vie à voir, elle est ramenée à un pur exercice de liberté, pas du tout à quelque chose qui aurait une vocation politique, éventuellement réglementée par des formes de rationalité qui sont purement de l'ordre du calcul, de l'algorithme. Voilà, c'est ça. C'est la liberté individuelle entendue à la manière des libertariens et la rationalité algorithmique. Voilà. Ce serait ça, désormais, qui régirait le principe de transparence. Alors, je vais en passer par là la fois prochaine parce que je reviendrai aussi, du coup, dans la dernière séance. Enfin, j'essaierai de porter aussi la critique sur le principe libéral de publicité. C'est-à-dire que je ne me contenterai pas de critiquer l'injonction néolibérale à la transparence, mais dans la mesure où le libéralisme et son insistance sur la publicité a engendré comme une de ses possibilités cette injonction à la transparence, il faudra se demander si, y compris dans ce qui relève de la politique, il ne faut pas laisser aussi une certaine place. Sinon, alors, au secret et aux sociétés secrètes, au moins, en tout cas, à une certaine forme de discrétion. Voilà, c'est ce que... sachant que par libéralisme, j'entends quelque chose qui est... c'est pas une épithète forcément insultante, et j'entends quelque chose d'assez large, qui est, là, en l'occurrence, quelque chose comme une pensée de l'extension de principes juridiques et de l'état de droit, etc., et des droits de l'individu au regard des pouvoirs de l'État. Voilà, je vous remercie et... Là, vous avez la parole si vous avez des questions, des éléments de discussion, des éléments que vous voulez amener dans la discussion.